Gloire à Dieu.
Nous venons de chanter ce cantique qui nous dit « J'ai soif de ta présence. Viens, ô Jésus, viens et demeure auprès de moi. » Et si vous le permettez, j'aimerais que l'on puisse prier justement avant d'entendre la parole de Dieu parce que j'ai besoin justement, comme on vient de le chanter, de l'aide de Dieu chaque jour, à chaque heure, et particulièrement à cette heure où on doit annoncer la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse ensemble, de même cœur, demander au Seigneur qu'il agisse. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce soir et c'est toi que nous voulons entendre, c'est ta parole dont nous avons besoin. Ce n'est pas les conseils d'un homme qui peuvent solutionner les problèmes les plus profonds de nos vies, mais c'est bien la tienne. C'est ta parole qui est efficace et qui, Seigneur, a ce pouvoir d'agir, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, parce que ta parole est vivante. Oui, parce que comme nous venons de le chanter, c'est ta présence qui est la vie, ta présence qui est la paix, dans la souffrance, dans la difficulté, c'est toi dont nous avons besoin. Et nous voulons faire encore cette prière d'un même cœur. Oui, viens Seigneur Jésus, viens et demeure auprès de nous. Viens et demeure Seigneur auprès de moi pour annoncer ta parole fidèlement. Par ton esprit, conduis et dirige toutes choses. Encore ce soir, parce que tu connais les cœurs et tu sais les besoins. Et tu es celui qui veut agir, tu es celui qui veut bénir, tu es celui qui veut restaurer, libérer. Nous le savons, c'est ta parole qui nous le dit. Alors que tu puisses intervenir, que les cœurs vraiment puissent être réceptifs à l'écoute et recevoir, saisir par ta grâce ce que tu veux donner encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, amen. Ouvrons la parole de Dieu dans Habacuc chapitre 2. Habacuc chapitre 2, verset 1er. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Le juste vivra par sa foi. Et j'aimerais qu'ensemble on aille dans Romains chapitre 12, verset 12. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà, ce soir, j'aimerais m'arrêter donc sur ces deux passages. Premièrement, pour commencer, cette exhortation qui est venue sur mon cœur. Ce dernier verset que nous venons de voir dans Romains, chapitre 12, verset 12, est un verset qui aurait pu être écrit par Habacuc. Est un verset qui aurait pu être écrit par Habacuc à la fin de ce livre en disant « Voici mon expérience ». Voici l'expérience par la grâce de Dieu que j'ai pu faire. Oui, j'ai pu me réjouir en espérance, être patient dans l'affliction et persévérer dans la prière. Parce que c'est exactement ce que nous voyons quand nous lisons le livre d'Habacuc et quand nous regardons ce qui se passait dans le contexte à ce moment-là. Parce que quand Habacuc se tourne vers Dieu, comme nous l'avons vu dans ce chapitre 2, le contexte par lequel il passait n'était pas facile. Voyons un contexte où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était loin de Dieu. Il y avait des choses abominables qui se faisaient, qui se passaient. Le peuple de Dieu avait abandonné Dieu, abandonné sa parole. Il y avait des idoles partout en Israël, jusque dans la maison de Dieu, jusque dans le temple de Dieu. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient malhonnêtes, qui ne pratiquaient pas le droit, la justice. On voit cette description de ce contexte dans le chapitre 1er, quand Habacuc dit, au chapitre 1er, verset 4, « Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie ?» La loi de Dieu n'a-t-elle point de vie ? La justice n'a-t-elle point de force ? Le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Et c'était ce qui se passait. C'était ce qui se passait du temps d'Habacuc. La plupart des hommes religieux avaient abandonné Dieu, s'étaient détournés de lui. Et Habacuc voyait cette misère spirituelle qui lui brisait le cœur. Il était affligé de voir ce qu'il se passait sous ses yeux. Il se posait des questions et se demandait pourquoi Dieu permet ces choses, pourquoi Dieu permet toutes ces mauvaises choses. Et en même temps, il se demandait comment le Seigneur allait agir et... Il y avait sur son cœur ses plaintes, mais il se tenait à son poste. Il se tenait à son poste, dans la prière. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. L'Église a un poste. Chaque chrétien a un poste. Nous avons tous un poste. Et il est important de savoir où est notre poste. Et il est important de savoir nous y tenir. Parce que c'est quand on se tient à son poste que Dieu nous parle. C'est quand on se tient à son poste que Dieu peut agir pleinement, puissamment, dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous libérer. Comme il a pu le faire pour Habacuc à ce moment-là, alors qu'il était découragé, alors qu'il y avait ses plaintes sur son cœur, parce qu'il était à son poste. Parce qu'il était à son poste, Dieu a agi. Et que nous puissions garder cela à cœur, mes frères et sœurs. Nous puissions, oui, être à notre poste comme des sentinelles, comme des gardes sur leur tour pour veiller, pour être vigilants, pour voir, les mauvaises choses être arrivées et pour pouvoir justement les éviter. C'était le but d'une sentinelle, avertir de la venue d'un ennemi, de danger potentiel, mais c'était aussi le but de garder, de préserver la ville. Et c'est quand on est à son poste qu'on peut être alerte et voir les dangers, les pièges pour les déjouer, et qu'on peut être à même de pouvoir garder l'intérieur de nos vies et de nos cœurs, mais l'Église, notre famille, nos proches. Il est vraiment important et capital d'être à notre poste. Comme Habacuc. Je le dis, oui, Habacuc a pu expérimenter ce verset. Il était à son poste et il se tenait dans la prière, il persévérait dans la prière. Il a pu expérimenter ce que c'était être patient dans l'affliction, parce qu'après avoir entendu la parole de Dieu, il va être fortifié, encouragé, il va l'accepter. Très simplement. Et on voit comment ce livre va pouvoir se terminer dans Habacuc chapitre 4, verset 18, où il nous est dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. » C'est ce qui nous montre que donc Habacuc persévérait dans la prière, il a été patient dans l'affliction, dans cette épreuve, et il se réjouissait. Il était dans cette réjouissance, il se réjouissait en espérance. Les circonstances n'avaient pas changé, les circonstances à ce moment-là, quand Habacuc priait, n'avaient pas changé, mais il pouvait, oui, se réjouir en l'Éternel. Et ce soir, j'ai vraiment sur le cœur que nous puissions faire la même expérience. Et pour cela, j'ai eu à cœur d'insister particulièrement sur ce point d'être patient dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. C'est le titre de mon message ce soir. Soyez patient. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous avons lu ce passage dans Habacuc chapitre 2 et nous avons vu qu'il y est question d'une prophétie. Quand Dieu a parlé à Habacuc, il lui a parlé d'une prophétie qu'il fallait graver, écrire afin de la lire. Une prophétie dont le temps était fixé. Une prophétie qui arrivait et que son terme était là. Mais il va lui dire, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. C'est quand même particulier. On pourrait se demander pourquoi. On pourrait se dire, mais si Dieu donne une promesse, si Dieu donne une parole, pourquoi il ne l'accomplit pas de suite ? Si elle tarde, attends-la. Si la promesse n'arrive pas au temps où toi tu penses qu'elle doit arriver, attends-la. Le Seigneur est celui qui veut nous apprendre à attendre. Aimez-vous attendre. Alléluia. Aimez-vous attendre. Aimez-vous être patient. C'est ça, être patient. J'ai pris la définition de ce qu'est être patient pour, je crois qu'on sait tous ce que c'est être patient, mais pour être au plus clair et voir cette définition que j'ai trouvée intéressante, très simplement dans le dictionnaire Larousse, il est écrit que c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. C'est faire preuve de patience. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, montrer une patience inlassable. C'est la persévérance, constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein, et on peut dire dans une situation pareille, sa patience a été récompensée. Voilà la définition que nous donne le Larousse. Est-ce que ce soir on peut parler encore de patience ? Dans le monde dans lequel on vit, ce monde ne nous enseigne pas la patience, bien au contraire. Ce monde vit à l'opposé de ce que la parole de Dieu nous enseigne, et ce monde est à l'opposé de la patience. Ce monde n'aime pas la patience. Et on le voit dans ce monde, tout va très vite et tout est fait pour aller très vite. Il faut que les appareils, faut que quand on clique, ça réponde, ça agisse. Il faut que quand on appuie sur le bouton, voilà, ça se passe. On n'aime pas attendre. Dès qu'on attend un peu, c'est trop long. Ça ne va pas. Seulement, il y a des dangers à l'impatience. Et ce soir, j'aimerais voir juste trois points avec vous, justement, sur la patience. Premièrement, donc, les dégâts que l'impatience peut faire dans nos vies, dans nos cœurs. Ensuite, la patience de Dieu. Et troisième point, j'aimerais que l'on voit ensemble la patience du chrétien, la patience à laquelle Dieu nous appelle. Alors, premièrement, les dégâts de l'impatience. Il y a plusieurs exemples dans la parole qui nous montrent, justement, des mauvais exemples d'impatience. J'ai noté premièrement Abraham. Abraham, qui, son nom signifie, ce changement, quand Dieu lui a donné ce nom, il y a cette insistance dans la parole qui montre que c'était par rapport au fait qu'il soit père d'une multitude. Et vous savez que Abraham avait reçu un appel à être une nation, une grande nation. Mais quand Abraham a reçu cet appel, entre le moment où il a reçu cet appel et le moment où s'est accomplie donc cette promesse, il s'est déroulé 25 ans. Entre le moment où Abraham a reçu cet appel et le moment où il a reçu cette promesse, il y a eu 25 ans. Quand Abraham est parti de la Chaldée, il avait 75 ans, et quand il est arrivé, et quand la promesse s'est accomplie, il avait 100 ans, 25 ans. Et quand Dieu a fait ce changement de nom par rapport justement à cette promesse, parce qu'avant il s'appelait Abraham, quand Dieu a fait ce changement de nom, Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu a fait ce changement de nom et lui a donné ce nom Abraham, alors que sa situation n'avait toujours pas changé. Il insistait, il rappelait cette promesse qu'il serait père d'une multitude, alors que rien n'avait changé. 25 ans. Je ne sais pas si pour vous c'est long 25 ans ou si c'est rapide. Mais on sait en tout cas que, du coup, entre cette promesse et l'accomplissement, il y a eu des erreurs, il y a eu des impatiences. et qu'Abraham ne s'en est pas tenu à ce qu'il avait reçu, à cette parole, à cette promesse, mais il a essayé avec Sarah, son épouse, d'aider Dieu, de donner un coup de main à Dieu, et d'essayer de trouver une solution, un moyen par eux-mêmes, de faire par eux-mêmes pour accomplir cette promesse. Mais ce n'était pas là la volonté de Dieu. Et il y a là un piège dans nos vies, quand justement il y a des temps d'attente, des temps où Dieu nous apprend à attendre. Hein. Ce piège, c'est de vouloir faire par nous-mêmes, d'essayer de trouver des solutions, des moyens pour essayer d'arriver à nos fins. Mais retenons l'exemple que nous donne Abraham à ce moment-là. Même si c'est un mauvais exemple sur la patience à ce moment-là, parce qu'il y a plein d'autres points où Abraham est un véritable exemple, retenons qu'il y a des conséquences à l'impatience. Néanmoins, on voit quand même Dieu parler par la suite, malgré ses impatiences, dans Genèse chapitre 21, verset 2, et dire à Sarah, Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est au temps fixé que Dieu a agi. Et c'est au temps fixé que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est vrai que notre temps n'est pas toujours le temps de Dieu, et il nous faut apprendre justement cette patience, le temps de Dieu, le temps fixé par Dieu. Un autre exemple, justement, d'impatience, j'ai pensé à Moïse et au peuple d'Israël. On voit, dès leur sortie d'Égypte, dès la sortie du peuple hébreu d'Égypte, on les voit par la suite dans l'impatience. Par rapport au manque qu'ils avaient, manque de nourriture, on les voit dans le murmure, dans la rébellion, on les voit dans l'impatience quand Moïse va monter au mont Sinaï, alors qu'il va monter pour justement se tenir à son poste devant Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que va faire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans leur impatience? Ils vont s'éloigner de Dieu, ils vont se détourner de Dieu et se tourner vers des idoles, se faire une idole, se faire un veau d'or. Et c'est terrible, mais quelle misère! Et c'est là, malheureusement, le danger qui court quand on ne sait pas être patient, se tourner justement vers les voies de ce monde, des idoles, des choses pour combler le cœur. Et dans l'impatience, on s'égare. Combien de personnes on voit, malheureusement, parce qu'elles n'ont pas su être patient dans leur marche chrétienne, s'égarer dans les voies de ce monde. Il y avait ce passage encore par rapport à Moïse et au peuple d'Israël, ce passage aux eaux de Mériba. Hein, vous connaissez ce passage où on voit Moïse qui va frapper le rocher, alors que Dieu ne lui avait pas demandé, qui est en réaction, en fait, à l'impatience du peuple d'Israël. C'est parce que le peuple d'Israël était justement dans cette impatience, parce qu'ils étaient tout le temps à demander, à râler, comme des enfants, qu'il y a eu cette impatience qui est venue dans le cœur de Moïse, et qu'il a eu cette attitude. C'est quand même assez terrible et affligeant, parce qu'on peut voir que Moïse, quelques chapitres auparavant, il est dit de lui que c'était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. En son temps. C'est quand même interpellant. Moïse était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. Mais il y a eu quand même cette impatience à ce moment-là. Et il y a eu des conséquences. Et vous le savez, à cause de cette impatience, à cause de cette attitude, Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Comme exemple aussi d'impatience, il y a Saül. On voit cela dans 1 Samuel. 1 Samuel 13, où on peut voir Saül qui, alors qu'il combattait les Philistins, va dans la panique, alors qu'il y avait l'armée des Philistins qui était devant lui, plusieurs chars, et qu'il s'inquiétait et qu'il voyait le peuple qui était auprès de lui commencer à trembler, à s'enfuir. Saül avait avait reçu, il y avait des règles, il y avait eu un ordre. Il devait attendre Samuel qui devait venir pour offrir un sacrifice à l'Éternel afin que Dieu soit propice à Saül et que Dieu puisse bénir à ce moment-là le peuple de Dieu et le rendre victorieux. Mais Saül n'a pas attendu. Et on voit cela dans 1 Samuel 13:8. Il attendit, il est question de Saül, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. » L'impatience, les conséquences de l'impatience. Vraiment, réalisons ce soir les conséquences de l'impatience. Dans ces 3 exemples, réalisons qu'il y a des conséquences à l'impatience. Et que comme dans ce dernier exemple, l'impatience a des conséquences graves. Dans les patiences, comment agis-tu ? Il est important d'attendre le temps de Dieu et de respecter ce que Dieu nous dit, même par rapport au service. Parce que c'était une question de service. Saül n'a pas fait le service auquel Dieu l'avait appelé. Il s'est cru pouvoir capable d'accomplir un autre service. Mais Dieu ne lui avait pas ordonné. Et il s'est levé pour ça, il a agi. Mais il a agi comment ? En insensé. Et il est important d'agir au temps fixé, au temps de Dieu, par rapport au service, même s'il peut y avoir des impatiences, parce que cela peut être très dommageable. On voit donc au travers de ces 3 expériences que la patience des hommes, c'est une chose. On voit qu'elle peut être faible, fragile, voire inexistante dans certains cas. Mais heureusement, il y a la patience de Dieu. Il y a la patience de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que l'on voit encore et que l'on réalise la grande patience de Dieu à l'égard de chacun de nous. Parce que s'il est vrai qu'il peut y avoir, des impatiences dans nos vies, il y a la patience de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas. Il use de patience. Et il use de patience envers chacun de nous. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, ce soir, Dieu use de patience. Nous sommes encore dans ce temps de patience. Et nous savons qu'un jour, la patience de Dieu sera terminée. Qu'un jour, les portes de la grâce seront fermées. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser sa patience, qu'il ne faut pas mépriser sa bonté, sa grâce. Comme nous le dit Romains chapitre 2, verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » Ce soir, ne méprise pas. Ne méprise pas la patience de Dieu. Réalise combien est grande sa patience à ton égard. Ce soir, ne méprise pas, oui. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Mais saisis-la. Parce que s'il y a bien, je crois, une situation où l'impatience peut être une qualité, c'est bien dans ce domaine. Soyez impatients pour vous tourner vers Dieu. N'attendez pas. Soyez impatients pour venir à ses pieds. Soyez impatients pour lui demander pardon pour tous vos péchés. Soyez impatients, oui, pour vous repentir. Soyez impatients pour venir à la croix. Soyez impatients pour vous tenir dans sa parole. Je crois que, en tout cas, un chrétien, un véritable chrétien, a ses impatiences. Ces impatiences de se tenir devant Dieu, ces impatiences de se tenir dans la parole de Dieu. Je crois qu'un véritable chrétien a cette hâte, a ce désir et est pressé, poussé par cela. Mais si tu ne l'es pas, et si tu n'as pas encore fait ce pas de foi, si tu n'as pas, encore donné ta vie au Seigneur, ton cœur à Dieu, si tu n'as pas changé de vie, que tu es loin de lui, réalise la patience de Dieu. Tu es encore dans ce temps où tu peux saisir ce soir, saisir la grâce. Simplement, par la foi, en t'approchant de lui, et n'attends pas. Toi, ne tarde pas encore ce soir. Ne remets pas à demain, parce que Dieu, lui, nous l'avons lu, il ne tarde pas. Même s'il use de patience, il ne tarde pas dans ses promesses. Son retour est proche, son retour est certain. Dieu ne tarde pas. Et il nous appelle justement donc à, si lui est patient envers nous, à être patient. Les enseignements de la parole nous montrent à plusieurs reprises justement cela. Et particulièrement, j'ai été interpellé par cela, le Nouveau Testament nous montre que la marche chrétienne commence par une attente. La Bible nous montre que la marche chrétienne commence par la patience. On voit cela dans Actes chapitre 1er, verset 4, où on peut voir Jésus qui parle à ses disciples juste avant de remonter au ciel. Et il va dire, comme il se trouvait là avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Dieu nous montre dans sa parole que la marche chrétienne commence par une attente. Jésus a pu donner cette parole à ses disciples qui nous concerne. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Il y avait pourtant des besoins. Il fallait évangéliser tout Jérusalem, la Judée, la Samarie, la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y avait une mission qui était grande, il y avait des besoins urgents. Il y avait une bonne nouvelle à répandre, mais pourtant Jésus va demander à ses disciples d'attendre. Ce n'est pas par hasard, et ce n'est pas un détail, et ce n'est pas futile, mais c'est capital, c'est important, il faut savoir attendre. Attendre ce que Dieu veut nous donner. Dans ce cas, c'était particulier, c'était par rapport justement à être revêtu de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est important de savoir justement attendre cela avant de partir justement évangéliser, avant de partir servir le Seigneur dans toutes sortes de services, savoir demander au Seigneur. Savoir attendre, savoir se tenir devant lui à notre poste pour être revêtu de la puissance d'en haut. As-tu justement fait cette expérience d'attendre ce que le Père a promis? C'est une promesse qui est pour nous, une promesse qui est encore actuelle. Ça, c'est par rapport à ce verset. Mais ce verset nous enseigne donc du coup que la marche chrétienne commence par une attente. Et il nous faut vraiment accepter qu'ici-bas, il y aura toujours des attentes. Tant qu'on est ici-bas, il y aura toujours des attentes. Des attentes dans la vie chrétienne, des attentes conduites et voulues par Dieu pour des buts précis, des attentes qui sont, assouvies, vous comprenez, auxquelles Dieu répond. Ce n'est pas des attentes infinies. Mais ce sont des attentes auxquelles Dieu répond, des attentes précises. Dieu nous demande d'attendre parce qu'il y a un but précis. Et Dieu répond. Mais il y a des attentes aussi, il y a des attentes conduites et dirigées par Dieu. Il y a des attentes aussi qui sont humaines. il peut y avoir des attentes qui sont humaines. Et il est important de savoir en tout cas que Dieu connaît nos cœurs et qu'il n'est pas insensible et qu'il est celui qui prend soin de répondre à tous nos besoins et même au-delà. Il connaît nos désirs. Et la parole nous dit, vous connaissez ce verset, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il est celui qui répond à nos désirs, à nos besoins, et il connaît nos attentes. Un chrétien doit donc savoir attendre. On doit savoir attendre, mais non pas d'une manière passive. C'est important d'avoir et d'attendre d'une manière active. On n'est pas appelé à attendre les bras croisés sans rien faire, mais nous sommes appelés à attendre en agissant malgré tout, selon Dieu, en sachant se tenir sur notre poste, nous tenir dans la prière, dans la lecture de la parole, en faisant ce que le Seigneur nous demande. Par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, l'attente, elle est active là aussi. Il faut savoir demander au Seigneur, il faut savoir saisir par la foi. La parole nous dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, qu'il vienne à moi. Donc il y a une démarche, venir à Jésus, au pied de Jésus. Et ça, c'est pour le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est aussi pour tous les autres besoins. Il y a une attente qui doit être active. Et on voit cet enseignement sur la patience à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et il y a plein de versets qui nous montrent cela. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette étude, cette recherche sur la patience, mais j'en ai noté quelques-uns dans les Épîtres qui nous montrent ces enseignements à être patient. Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous de patience. Dieu nous appelle à nous revêtir de patience. 1 Thessaloniciens 5,14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. À user de patience envers, nos frères et sœurs dans l'Église, envers notre famille, notre mari, notre épouse, nos enfants, à user de patience envers tous. 2 Thessaloniciens 3:5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. On retrouve encore que Dieu est patient, la patience de Christ. 1 Timothée 6:11, je terminerai par cela. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Recherche. Donc on voit que la patience, il nous faut la rechercher. Ça concerne les hommes de Dieu, mais ça concerne aussi les femmes de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes. Ça nous concerne tous. On est tous appelés à rechercher la patience. Alors comment réussir à être patient ? Concrètement, on a vu peut-être déjà au travers de plusieurs versets comment arriver justement à s'approcher de Dieu, l'intérêt, l'importance. Et comment réussir à être patient? J'ai noté 3 points concrètement en le demandant au Seigneur. C'est important d'être honnête, d'être vrai, parce que le Seigneur connaît nos cœurs et il connaît nos impatiences. Et la première démarche, je crois que c'est de dire au Seigneur, Seigneur, tu connais mes impatiences, je te demande pardon. Je demande pardon pour toutes les fois où j'étais impatient avec toi, avec ta parole, avec ma famille, avec mes proches. Je demande pardon parce qu'il y a ce manque dans ma vie, ce manque de patience, alors que c'est un fruit de l'esprit. Nous le savons, c'est dans Galates 5:22. Le fruit de l'esprit, ça fait partie des fruits de l'esprit, la patience. Demandons au Seigneur qu'il développe en nous ce fruit, la patience. Demandons-le dans la prière. Mais attention, je vous préviens que si vous faites cette prière, Dieu vous mettra à l'épreuve. Il y a des conséquences à cette prière, mais c'est important de le faire. Mais il y a des conséquences. Quand on demande au Seigneur de nous faire travailler la patience, il est très fort probable qu'il y ait des situations qui vont nous faire peut-être perdre patience, qui nous mettront sur la limite. Mais il faut l'accepter, et malgré tout le demander. Peut-être que tu as fait cette prière et que tu te retrouves peut-être étonné de ne pas recevoir immédiatement ce que le Seigneur peut-être t'a promis ou que tu lui as demandé. Il y a la patience et c'est important. À notre point concrètement, on peut développer la patience dans nos vies, dans nos cœurs, grâce à la parole de Dieu. Il y a ce verset dans Romains 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit, et donc tout ce que nous avons vu, les exemples dans l'Ancien Testament d'impatience, ces enseignements sur la patience, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est quand même merveilleux, se dire que la parole de Dieu nous donne la patience. Quand on médite la parole, quand on se nourrit de la parole de Dieu, il y a cette vertu qui se développe simplement dans nos cœurs, la patience. Et en plus de cela, l'espérance. Je fais le lien avec savoir se réjouir dans l'espérance. Même si les circonstances ne changent pas, c'est grâce à la parole de Dieu là aussi. Et un dernier point, concrètement, comment développer la patience? Eh bien, en acceptant les épreuves. Il y a ce passage dans Jacques chapitre 1, verset 2 qui nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Voilà la volonté de Dieu, voilà ce qu'il recherche, voilà son œuvre. Il y a cette œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y a une œuvre que la patience fait dans nos vies et dans nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il nous faut accepter les épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il y a une œuvre que le Seigneur fait dans nos vies, dans nos cœurs. Et il nous faut l'accepter. Et si nous avons vu donc ces exemples d'impatience, j'aimerais terminer ces moments, cette réunion, avec courtement un exemple de patience. Vraiment, je trouve un exemple magnifique, merveilleux dans la parole, un exemple de patience. J'ai pris cet exemple parce qu'il est appuyé par la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous dit « Avez-vous entendu parler de la patience de Job ?» Avez-vous entendu parler de la patience de Job ? Il est écrit dans Jacques, chapitre 5, verset 10, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » On ne sait pas combien de temps a duré l'épreuve de Job. Ce n'est pas écrit dans la Bible. On ne peut pas le savoir. Mais très certainement, si le Nouveau Testament nous parle de la patience de Job, c'est que cette épreuve n'a pas été courte. C'est que la patience a été exercée comme il le fallait. Vous connaissez cette histoire, l'histoire de Job, ce passage où on voit qu'il a tout perdu, sa famille, ses enfants, son travail. Mais on voit aussi à la fin comment le Seigneur l'a rétabli, l'a restauré. C'est oui un exemple de patience parce que justement dans la patience, il a su tenir ferme, il a su tenir bon, il a su rester attaché à Dieu, attaché à sa parole. Mais nous voyons aussi comment le Seigneur l'a restauré et l'a béni. Et je crois que c'est ce qui nous encourage aussi à être patient dans l'affliction. Vous avez vu comment le Seigneur lui accorda, la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. J'aimerais terminer par dire, en conclusion, que Dieu a son temps et il veut que son temps soit aussi le nôtre. Ce n'est pas simplement une vertu que Dieu veut développer dans nos cœurs. Ce n'est pas simplement une bonne vertu qui est la patience que Dieu veut développer en nous. Mais c'est nous amener dans l'unité de son plan, de sa pensée, de son temps. Parce que Dieu a une volonté qui est parfaite. Et il ne se plaît pas à nous voir attendre. Il y a une volonté qu'il accomplit. Dieu est celui qui donne, on le voit dans la parole, Dieu est celui qui donne le discernement des temps pour nous amener à faire qu'un avec lui. Puis en garder ces choses dans nos cœurs, garder à cœur que oui, les temps et les circonstances sont dans sa main et qu'il est celui qui conduit toutes choses. Comme nous le dit sa parole, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyons donc patients en gardant foi en Dieu, sachant que lui n'est jamais en retard, qu'il agit en son temps. J'aimerais qu'on puisse prier un instant encore, qu'on puisse demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Dieu, ensemble de même cœur, ce soir nous voulons encore te bénir, parce que tu es celui qui nous parle. Tu es celui, Seigneur, qui nous montre que tu as tout entre tes mains. Et que tu es celui qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Tu es celui, Seigneur, qui fait toutes choses parfaitement. Merci parce que nos vies sont entre tes mains. Et merci parce que tu es celui qui a tout pouvoir sur les temps et les circonstances par lesquelles nous passons. Et nous savons que tu n'es pas un Dieu insensible et que tu es celui qui nous donne de pouvoir être secouru, être fortifié, comme Habacuc, en son temps, qui a eu besoin d'une parole pour l'éclairer, pour l'aider, lui donner de pouvoir se réjouir en espérance. Seigneur, tu vois ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans l'épreuve de la foi. Seigneur, je te prie encore ce soir d'étendre ta main sur chacun et de fortifier les cœurs. Je te prie, Seigneur, de remplir de ton esprit, parce que nous savons que c'est le fruit de ton esprit, la patience. Seigneur, oui, ensemble, d'un même cœur, nous voulons te demander de nous donner ce discernement des temps dans lesquels nous sommes, afin que nous puissions rester à notre poste, rester devant toi, parce que nous le savons, les temps sont courts, parce que nous savons que tu reviens bientôt. Nous savons que nous sommes dans la fin des temps, ta parole nous le dit. Donne à chacun de nous, je te prie, cette révélation, vraiment dans les cœurs, cette conviction. Oui, que nous sommes dans ces temps, les temps de la fin, et qu'il est temps de se tourner vers toi, qu'il est temps de te demander pardon, qu'il est temps de venir à toi, qu'il est temps de venir à la croix. Je te prie vraiment de te révéler encore ce soir dans les cœurs, afin que personne ce soir ne reparte de ce lieu en méprisant ta patience. Seigneur, nous voulons terminer, oui, en te disant, Seigneur, de tout notre cœur, notre reconnaissance pour ta patience. Oui, ta grande patience. Et nous ne voulons pas, Seigneur, la rejeter, la mépriser, n'en faire aucun cas. Non, nous ne voulons pas user de ta patience. Non, bien au contraire. Nous voulons être dans ton temps, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, vraiment pour ta grâce. Te disons vraiment merci parce que tu es celui qui nous pardonne malgré nos impatiences, qui nous aide, Seigneur, à aller plus loin, qui, malgré nos erreurs dans l'impatience, nous donne de recevoir tes promesses, tes bénédictions, tes grâces. Merci pour tout ce que tu fais encore ce soir. Merci de bénir chaque famille ici présente. Merci de bénir chacun richement. Merci pour tout. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.